France Culture.
Vous êtes chez Monsieur Letellier, c'est
oui.
Ça?
Voilà, un deuxième.
Il n'y a pas de coffre.
Ah, d'accord.
Le Book Club.
Voilà, vous l'appelez, mais je pense qu'il vous attend.
Ah, il y a moyen qu'il nous attende. Bah, j'espère qu'il nous attend.
Ah, j'ai vu tout à l'heure, c'est
bon. D'accord, merci beaucoup, merci.
Dans la bibliothèque d'Hervé Letellier.
Vous pouvez parler.
Allô?
La porte est ouverte.
Ok.
La porte est ouverte. La porte
est
ouverte.
Ok, ok.
Marie Richeux.
Il y a une différence notoire entre les choses sérieuses et l'esprit de sérieux. Hervé Letellier prend manifestement la littérature au sérieux. Les mots y peuvent quelque chose au monde, à la vie. Et si l'on se débrouille bien, ils y peuvent même du mieux. En revanche, il faut que ça joue, dans tous les sens du terme. Il faut qu'il y ait des grains de sable dans la machine et que l'on puisse s'attarder sur la couleur de chacun des grains. Mathématicien de formation, puis journaliste, auteur de formes littéraires très diverses, Hervé Letellier préside l'ouvroir de littérature potentielle créé par Queneau, Pérec et confrères et qu'il a rejoint en 1992. Il a aussi obtenu le prix Goncourt pour son roman L'Anomalie en 2020, immense succès de librairie et de traduction. L'auteur pense que les livres nous reconnaissent. Pour ce qui le concerne, ils ont toujours reconnu en lui, les livres, le désir d'écrire. Émerveillé par exemple par la façon dont presque l'air de rien, Italo Calvino propose dans une langue simple de profondes expériences de pensée, il veut savoir, petit 1, comment c'est fabriqué, petit 2, il veut s'y coller aussi. Plusieurs moments d'émotion dans ce déballage de bibliothèque, la langue de Calvino qui nous cueille au détour d'une collection de sable et la langue de Victor Hugo évoquant les enfants martyrs. C'est l'heure des motos, dit Hervé Letellier en fermant la fenêtre sur la colline de Montmartre, une heure suspendue.
Ça va, Imo ?
Ouais, ça va bien. Bonjour.
Merci de nous accueillir.
Entrez.
Vous nous faites un petit tour dans cette bibliothèque ?
Mais si vous voulez, c'est un classement banal, alphabétique.
Ok.
Voilà, donc je ne sais pas combien il y en a, pas mal.
Ça a toujours été comme ça, classement alphabétique ?
Oui, ça a toujours été rangé de manière alphabétique. J'ai refait la bibliothèque il n'y a pas longtemps, j'ai viré à peu près 2000 livres.
Oh, ok.
Mais il vaut mieux.
Parce ok, il y en a, il en reste encore un peu, ouais.
Oui, il en reste encore un peu. Et j'ai chassé des livres que je ne lisais pas, objectivement, c'est l'occasion lorsqu'on range. Et donc il reste ceux-là, je ne sais pas combien il y en a, peut-être autant, 2000 je pense. Voilà, donc j'ai gardé tout ça, il y a des choses que je garde par sentimentalité, voilà, et puis d'autres que j'ai conservées parce que je m'en sers.
Ça veut dire quoi quand vous vous en servez, c'est-à-dire ?
Parce que je m'en sers à la fois pour des conférences, des lectures... Et aussi parce que parfois, dans un cadre de travail fictionnel, on est obligé de se ressourcer auprès d'un auteur ou d'une autrice, auprès duquel ou de laquelle on a trouvé des choses dont on sait qu'elles vont servir. Quoi.
Mmh.
Colette, Gary, Calvino, Borges, voilà.
Mmh. Donc vous nous avez dit... on s'avance un peu, non, ouais. Pour regarder ?
Oui, bien sûr.
Alors... Alors, un classement alphabétique, et ensuite tout est confondu, on y trouve aussi bien du...
Non, tout n'est pas confondu, c'est-à-dire qu'il y a quand même, c'est que de la littérature ici.
Ouais.
Tout ce qui est un petit peu textotérique, c'est là-bas.
Ok.
C'est dans l'autre pièce qu'on va trouver tout ce qui concerne l'histoire, les sciences, etc.
Ok. Parce que là, on est dans votre bibliothèque, au sens de la pièce.
Oui, c'est la pièce voilà. Bibliothèque, celle où je travaille.
Ok.
Il y a deux bureaux, quand on travaille à deux, il y a une grande table. Pour aussi travailler à plusieurs, parce que ça m'arrive de plus en plus de travailler à plusieurs sur des projets qui ne sont pas forcément d'écriture, mais d'adaptation. Voilà. Et puis, il y a une étagère bibliothèque de type purement dictionnaire, et qui est vraiment de travail, c'est-à-dire il y a aussi bien un dictionnaire des œuvres qu'un dictionnaire des personnages, qu'un dictionnaire... visuel, j'adore les dictionnaires visuels.
C'est quoi un dictionnaire visuel ?
Un dictionnaire visuel, c'est quelque chose dont on a besoin lorsqu'on sait ce que c'est qu'une cathédrale, mais qu'après on est bien embêté pour savoir qu'est-ce qui est quoi dans une cathédrale.
Ah oui, ok.
Voilà, et moi j'en ai besoin parce que souvent les mots ne viennent pas, et les trois dictionnaires qu'a fait Gallimard à partir de, je crois que c'est Doreen Kindersley qui avait fait les versions originales et anglaises. Donc vous ne savez pas très bien ce que c'est qu'un chariot élégant, voilà, un dandy car, les rails des origines, donc quelque chose qui est sur l'origine des premiers chemins de fer, j'en ai pas besoin a priori, mais si je travaillais sur le 19e siècle et le début du 20e, j'aurais besoin de ces éléments-là. Le châssis en chaîne, le siège du conducteur, le cylindre, le siège du passager, toute l'organisation d'un véhicule dont moi je connais rien, je vais en avoir besoin. Donc j'ai besoin de tout ça, voilà, ça me sert.
Ça veut dire que ce travail-là de recherche un peu précis de vocabulaire, vous n'auriez pas l'idée d'aller le faire sur Internet?
Mais on ne peut pas le faire sur Internet puisqu'il faut connaître ce qu'on cherche.
Il faut connaître ce qu'on cherche.
Alors que là, on n'a pas besoin de connaître ce qu'on cherche. On a par exemple une locomotive et on trouve sur la locomotive que voilà, il y a des éléments qui sont que je pourrais pas trouver sinon. Le double champignon, connaissez le double champignon?
Non, c'est vrai, voilà. Et je me serais pas dit ah tiens. Et c'est quoi le double champignon?
Le double champignon, c'est un système qui permet de comprendre dans une coupe de rail comment est fixé au siège par une éclisse de bois le rail lui-même.
En effet, voilà. Je n'aurais pas
avec des tire-fonds. Des patins, des traverses,
ouais,
qui sont toutes solidaires. J'ai besoin de ce genre de choses.
Ouais.
Et j'en ai beaucoup. J'en ai 3. Ils couvrent à peu près l'intégralité des univers dont j'ai besoin, scientifiques, techniques, architecturaux. Voilà. Et c'est assez pratique, je dois dire.
Alors, revenons à cette grande bibliothèque. Donc, il y a de la littérature sur ce grand mur-là, il faut dire. Donc,
sur ces grands murs.
Sur ces grands murs, c'est exactement ce que j'allais dire.
De A à Z.
Exactement.
Voilà.
Ouais.
Tout simplement.
Si on était curieux. Oui, voilà, c'est ça. Donc, on a dû à la fois en thème, je le vois parce que c'est assez écrit, assez gros.
Ouais.
Mais le tout premier, c'est qui?
Ah, on va espérer qu'il est bien rangé. Ah, c'est possible.
C'est un A?
C'est Adamek.
Ok.
Après, il y a Alexakis. Puis on avance doucement et au fond du premier, on a l'Arioste, donc le Roland Furieux, dans une traduction au Seuil qui est assez ancienne. Je ne pense pas que ça a été retraduit depuis.
Et à la fin, si on va au Z?
Zweig.
C'est Zweig, c'est sûr et certain. Oui, là quand même, un Z et un W.
Oui.
Ça ne peut pas être...
Je vois assez mal qui pourrait se trouver après Zweig.
Ouais, ok.
Voilà.
Et c'était avec regret de s'être délesté dès 2000 ou avec
non,
soulagement?
Non, soulagement. Ouais. Oui, parce que c'est aussi... une manière de faire le ménage assez saine, de quitter le fétichisme de l'objet et puis d'accepter de se débarrasser de ce dont objectivement on ne se sert pas et qu'on ne lit pas. Quoi.
Est-ce qu'il y a des livres qui ont été un peu plus difficiles à trancher, qui ont failli se retrouver chez vous et qui sont partis
Oui, il y a des livres dont je me demandais si j'allais vraiment les garder parce que ce sont des classiques et qui ont fini par être donnés parce que ce sont des classiques que... Enfin, qui ne sont pas dans mon univers à moi. Voilà.
Comment vous décririez votre univers à vous, de lecteur?
C'est très compliqué, je sais ce qui n'y appartient pas, mais par exemple, si Zweig s'y trouve et que simultanément il y a Victor Hugo, enfin il y a plein, c'est très divers.
Mm.
On a plein de couches, plein de strates dans sa formation, dans ses goûts, il y a même parfois des oppositions. J'ai Toujary, j'ai Alphonse Allais, j'ai Musil et Zweig, donc c'est quand même un peu... divers.
Mm.
Alors, par contre, ce qui n'y appartient pas, c'est compliqué aussi. Mm. C'est des choses dans lesquelles j'ai l'impression de m'ennuyer, dans lesquelles la langue n'apporte rien. On va pas donner des noms, hein.
Non.
On va se fâcher avec tout
non.
le monde.
Voilà.
Voilà. Mais ces livres-là que je reçois parfois, ils disparaissent assez vite parce que je m'y retrouve pas, que je vois pas ce que ça m'intéresse, en quoi ça peut m'intéresser de les lire.
Mm.
Bon, voilà.
Là, on est dans une pièce où il y a beaucoup de livres. Est-ce que vous avez toujours vécu, travaillé, écrit
oui,
dans des endroits où il y avait des livres? Ouais.
Toujours, toujours. Il n'y a pas eu de moment dans ma vie où... Parfois, les livres ont changé. Hein. Ça pouvait être... Quand j'étais scientifique, c'était des livres qui étaient des livres de science, des livres consacrés à des domaines précis de tel ou tel univers. Il y avait chez moi toujours une sorte de complétion de ces univers que je ne trouvais pas à mon travail. Mais il y a toujours eu ça.
Mmh.
Et c'était indispensable. Et ça l'a toujours été. C'est-à-dire qu'il y avait des lieux, il y avait des encyclopédies complètes, parce qu'on ne pouvait pas travailler sans l'encyclopédie.
Mmh.
C'était tout simplement ça. Mais il y avait. C'est vrai que, de toute façon, j'ai toujours considéré que la source principale de la formation, c'était le livre, et que c'était plus simple de trouver dans un livre que de trouver dans une revue, dans un magazine, même si on avait aussi des rangements comme ça.
Mmh.
Et je suis aussi pas très très jeune, donc. La période Internet où on avait tout sur Internet, je ne l'ai pas connue.
Mmh.
J'ai travaillé très longtemps, jusqu'à l'âge de 30 ans, 35 ans, sans avoir d'accès direct à des moteurs de recherche. Google est né quoi il y a 25 ans. Donc, il y a 25 ans, on travaillait encore d'une manière un peu artisanale en cherchant l'information. Aujourd'hui, les choses ont tellement bougé avec l'IA, avec les systèmes de recherche coopératifs que... On travaille complètement différemment, et moi-même, je travaille différemment. Mais je garde encore cette méthode de travail qui, pour moi, fonctionne, parce que j'ai mes habitudes, et fondamentalement, je vais assez vite, quand même.
Est-ce que vous avez grandi dans un endroit où il y avait des livres aussi?
Oui, mais c'était d'avoir des livres qui était bizarrement situé derrière des bibliothèques en verre. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de fermeture. C'était comme si c'était des choses précieuses. Alors, dedans, il y avait quoi ? Il y avait les livres que lisaient mon beau-père et ma mère. C'était, je ne suis pas sûr qu'ils les lisaient, mais en fait, ils les stockaient, en tout cas. Et il y avait des choses que moi, j'avais beaucoup aimées. Il y avait Pagnol, que j'ai lu à cette époque-là, quand j'avais 14-15 ans. Quoi. Et chez moi, dans ma chambre, j'avais quand même, il faut le dire, open bar, question achat de livres. Donc j'avais beaucoup de livres que j'achetais et je pense que tout mon argent de poche passait en bouquins. Mmh. Et là, il y avait beaucoup de livres qui étaient accessibles. J'avais même un tiroir. Ces tiroirs qu'on mettait sous les lits et qu'on tirait, c'était là que je trouvais mes livres. Donc ça devait peser 35 kilos ou 40 kilos, ces tiroirs. Mais c'était là qu'il y avait peut-être, je ne sais pas, beaucoup, mais peut-être 200, 300 livres.
Ah oui, quand même. Pour un tout jeune homme, c'est quelque chose.
Oui, c'est ça. Enfin, deux tiroirs de 80, de 40 kilos, ça fait combien de livres ?
Aucune idée, Hervé Le Tellier.
Un livre en moyenne, c'est 150 grammes, 200 grammes si c'est des poches. Voilà.
Est-ce qu'il y a trace de cette première bibliothèque de votre adolescence ici ou
il
n'y a
pas,
plus grand-chose ?
Non, il n'y a plus rien ici. Ouais. J'ai emmené absolument tout à la campagne. Quand j'ai acheté une petite maison de campagne, il y avait une grande pièce au dernier étage qui était un grenier. Et c'est là que j'ai mis la bibliothèque avec absolument tous les livres de mon adolescence.
Conservés, du coup.
Conservés. J'ai pas réussi à jeter même des trucs que Bob Moran, vous voyez. Là, ça devient grave, hein, parce que c'est quand même pas essentiellement littéraire. Mais il y a des choses que j'ai vraiment conservées, qui étaient un attachement de gosse de 12 ans, qui avait lu ça. Je les ai relus, c'est pas intéressant. Mais
vous
j'ai
les avez
pas réussi à les jeter, ouais.
Et ça parle plus de votre attachement au passé ou de votre attachement au livre ?
Non, ça parle de mon attachement en fait, à moi.
À vous,
à ma continuité,
quoi. Ouais.
À une sorte de formation qui a été, comme on dit, par couche, par vraiment de manière vraiment itérative. Mm. On commence par lire Oui, oui, la voiture jaune, mm-hmm, que j'ai jetée.
Ah bah pourquoi ?
Ah bah parce que ils étaient abîmés, vraiment.
Ah bah alors, d'un seul coup, vous jetez un oui-oui abîmé, mais vous gardez un Bob Moran sans intérêt.
Oui, j'ai gardé quelques oui-oui quand même.
Ah d'accord.
Et des clubs des 5 aussi, que j'ai conservés parce que je trouvais ça très rigolo, et qu'on sait jamais s'il y a un gosse de 8 ans qui traîne par là. On peut toujours lui donner un club des 5, voir si ça marche encore.
Ouais.
S'il arrive encore à lire le passé simple.
Bien sûr.
Parce qu'il y avait du passé simple.
Il y arrive encore.
Voilà, et des choses comme ça. Bon, et puis toute une bibliothèque de formation de tout jeune adulte, qui est de science-fiction, choses comme ça.
Mm-hmm. Qui est présente ici, la science-fiction ?
Non, qui n'est pas du tout présente
ici. Okay.
Elle est présente peut-être par... ouais, il y a peut-être du Jules Verne, hein, c'est sûr, mais ça relève à la fois de la science-fiction. Il y a du Wells, mais c'est plutôt parce que j'ai bossé sur Wells. Mm-hmm. Et donc j'ai repris pas mal de livres de Wells. Mais ceux qui ont été ceux de mon enfance se trouvent à la campagne. Mmh. J'en ai racheté pour travailler dessus. Voilà.
Et quand vous dites, au final, c'est mon attachement à moi, au sens de pouvoir attester de ma formation...
Ah, pas attester, c'est juste une sorte de plaisir de retrouver le gosse que j'étais quand j'avais 8 ans et de retrouver la sensation de lecture.
Ça veut dire que ça, vous y croyez. Vous y croyez à une bibliothèque qui parle des individus.
Ouais. Je crois ça, oui.
Ouais.
Enfin, je pense surtout que les choix et les affinités électives qu'on a... C'est pas seulement une influence que les livres ont sur vous, moi j'ai une analyse différente, je pense, enfin, différente de ça, c'est plus fin, c'est-à-dire que les livres qui ont une influence sur nous sont déjà des livres qui font écho à quelque chose en nous.
Mmh. On les reconnaît, du coup.
Ils nous reconnaissent même. Mmh. C'est même eux qui nous reconnaissent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va lire un livre d'un auteur qui, même dans un univers qui est celui de la science-fiction, tous les lecteurs de science-fiction ne disent pas la même chose. Si on est dans l'univers de, je sais pas, du fantastique, on va être, on va aimer un livre de Nerval ou un livre de des choses un peu plus étonnantes de Maupassant qui sont de l'ordre du fantastique ou un Verne et à chaque fois c'est tel ou tel type d'écriture qu'on va commencer à apprécier de manière forte parce que ça correspond à nous. Moi, quand j'ai découvert Lovecraft, j'ai été frappé à quel point ça me parlait, même si c'est complètement opposé à la chose que je saurais écrire. Je saurais pas écrire ça. Mais ça m'a vraiment frappé. Il y a un très bon livre, d'ailleurs, de Houellebecq sur Lovecraft, que je conseille. Il n'y a pas beaucoup de choses sur Lovecraft, mais ce qu'a fait Houellebecq est pas mal. Et il y a quelque chose d'intéressant chez Lovecraft, c'est que ça dit la difficulté qu'on a à faire peur.
En littérature, vous voulez dire ?
En littérature. Mmh. Il y a 3-4 choses qui sont difficiles en littérature. Faire pleurer, ça va, parce qu'en fait, on va toujours toucher quelqu'un à l'endroit où ça lui fait un peu mal, et donc on peut arriver à le faire pleurer. Faire rire, c'est déjà un peu plus compliqué. La chose la plus difficile, c'est faire peur.
Mmh. Et alors, qui vous fait bien peur ?
qui fait bien peur, mais maintenant de moins en moins, mais Lovecraft a quand même été très effrayant. Il y avait un homme qui s'appelait Jean Rey, mm-hmm. ou John Flanders, ça dépendait, qui est un auteur du début du 20e, je pense, où c'était vraiment assez terrifiant. Et puis il y avait quand même des livres qui m'ont bien fait peur quand j'étais adolescent.
Et vous aimiez ça ?
Bah, j'adorais lire Bram Stoker, franchement, pour moi. J'ai relu récemment Dracula, je trouvais que c'était vraiment très très bien fait. Et on ne se souvient pas, mais c'est un roman épistolaire, ça n'est qu'un roman épistolaire. Ouais. Et arriver à faire peur avec un roman épistolaire, c'est pas facile, parce qu'en fait, on lit une lettre, donc on sait qu'elle a été écrite. Donc a priori, la personne qui l'écrit n'est pas morte. Donc on ne devrait pas avoir peur, mais ça marche quand même.
Et vous dites que les livres nous reconnaissent. Parfois, on met un peu de temps à savoir pourquoi un livre nous a reconnus.
Mais parfois, on ne le sait jamais.
Mais est-ce que vous avez une idée en tête, ou je ne sais pas, en parcourant des yeux là, votre bibliothèque, Hervé Le Tellier, d'un livre où un jour, vous avez dit « Ah, ok, d'accord, c'est pour ça que j'ai été vers
Bien
ce
sûr.
Livre. »
Bien sûr, Italo Calvino. Pour moi, clairement, dans le panthéon de mes auteurs, j'ai toujours essayé entre deux ou trois auteurs, dont Italo Calvino, dont Romain Gary, dont Flaubert. Et ces trois types d'auteurs très différents les uns des autres, hein, vraiment, objectivement, font partie des quelques auteurs pour lesquels j'ai eu envie d'écrire, envie de faire pareil. Calvino, clairement, quand j'ai commencé à lire Calvino, que j'ai lu en particulier Marco Valdo, le plaisir que j'ai eu à lire Marco Valdo était tel que, quand j'étais beaucoup plus âgé, à 30 ans, j'ai fait un pastiche de Marco Valdo.
Mais vous avez su pourquoi ? Vous avez su qu'est-ce qui, dans ce livre-là, vous reconnaissait ?
Oui, je pense qu'il y a une... Non, je ne sais pas. Chez Calvino, il y a une fluidité de l'écriture qui est assez unique. Donc il y a un désir d'être directement en contact avec son lecteur grâce à une plume qui est vraiment très spécifique. Il y a un désir aussi d'apporter en permanence chez Calvino de la philosophie élémentaire, hein, c'est-à-dire des choses qui, moi, me plaisent. Pourquoi est-ce qu'on garde un oiseau mort ? Pourquoi est-ce qu'on a peur d'avoir mal quand on voit une guêpe ? Ce que Calvino traite remarquablement bien, qu'est-ce qui nous fascine chez, par exemple, un lapin fluorescent, enfin, des choses qui sont assez, à la fois de l'ordre du merveilleux, mais du merveilleux urbain et simple.
Presque et, prosaïque.
Presque
quoi.
Très prosaïque, voilà. Et une sorte, alors le mot est très galvaudé, mais une sorte de poésie du quotidien que Calvino traitait remarquablement bien. Et moi, j'ai toujours eu envie de m'approcher de ça. D'aller vers ça.
Mais ça veut dire que ce que reconnaît, je reprends cette formule-là, que ce que reconnaît un livre en vous, ça a à voir avec votre propre désir d'écriture. Ça se connecte à ça.
Pour moi, oui.
Ouais. Mais parce que du coup, c'est là depuis tout le temps.
C'est pas forcément le cas. Je veux dire, on a le droit parfaitement de pas avoir envie d'écrire et d'être parfaitement touché par un livre.
Vous.
C'est pas automatique.
Pour
moi, en tout cas, ce qui est clair, c'est que ça allait directement dans le sens de j'aimerais avoir fait ça.
Ouais.
Pas forcément je suis capable. J'aimerais l'avoir fait. Et j'aimerais savoir comment ça a été fait pour arriver à m'approcher de la manière dont ça a été fait. Voilà. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, puisque je suis membre de l'ouvrage de littérature potentielle, j'ai beaucoup aimé le collectif de l'ouvrage. C'est que j'apprenais des choses dans une démarche qui était ma propre démarche individuelle, assez spontanée. Et quelque chose sur laquelle je venais m'appuyer, qui était 60 ans d'histoire, enfin aujourd'hui 65 ans d'histoire de littérature, et d'une littérature très œcuménique, parce que l'Oulipo, c'est pas quelque chose qui est né en 60, c'est quelque chose qui va chercher son historicité beaucoup plus avant, qui va remonter jusqu'à Homère. Donc ce goût pour un certain type d'écriture, ce goût pour la forme...
Pour la facture aussi.
Pour la facture,
ouais.
Parce qu'on est des artisans, c'est ça aussi l'idée. C'est que j'ai toujours pensé qu'on était des artisans, plus que des artistes. Beaucoup plus que des artistes. Enfin, je ne me vis pas du tout comme un artiste.
Est-ce qu'on peut aller voir OC comme Calvino, voir ce qu'il y a ? Parce que Calvino, ça fait partie des textes que vous avez décidé de partager avec nous tout à l'heure.
J'ai fait un choix qui était un choix... il y avait cinq... Vous m'avez demandé cinq. Donc j'ai réfléchi comme ça, je me suis dit deux livres de formation.
Ah bah super.
Et donc c'est les deux livres de formation que j'ai choisis. C'est Victor Hugo, parce que ça a vraiment compté pour moi.
Ouais.
Et Mark Twain,
okay.
Parce que j'ai adoré Mark Twain.
Vous en avez fait même une préface.
J'ai fait une préface pour un livre que j'avais lu de manière complètement différente, parce que c'était Bernard Höffner, qui est un ami, qui avait retraduit Mark Twain. Et moi, j'avais lu les versions antérieures de Mark Twain. Donc sa retraduction de Tom Sawyer, j'avais trouvé ça dément. Après, il a retraduit aussi Huckleberry Finn.
Ouais.
Ce sont des livres d'une incroyable liberté. Ça définit la littérature américaine. Elle commence là, et elle deviendra ce qu'elle devient. Elle commence vraiment avec Mark Twain qui inaugure quelque chose de complètement neuf dans l'écriture. Et ça, je trouve ça absolument merveilleux, parce qu'on voit la naissance de quelque chose de complet, qui va s'émanciper, en fait, du 19e siècle anglais, Dickens, etc. D'un seul coup, les Américains découvrent quelque chose dans la manière d'écrire que les Français vont découvrir beaucoup plus tard, parce que nous, on est pris dans Flaubert, on est pris dans Proust, et donc on ne va pas réussir, avant Céline, avant Queneau, avant Aragon, à être moderne. Voilà, pour être simple.
On s'était dit qu'on regarderait vite fait ce qu'il y a du côté de Calvino ici. Alors,
du côté Calvino, qu'est-ce qu'il y a? Et le problème des livres, vous savez, c'est qu'on les prête. Ah. Donc finalement, il n'y a pas tant de Calvino que
quand
ça.
Même.
Oh, ça va, il y en a quand même ça, quoi. Voilà,
quand
ça
même.
Ça va. Il y a quand même tout
il
ça.
Il a Calvino. Presque une étagère, en vrai.
Il a presque une étagère, ouais. Voilà. C'est des livres que je donne souvent. Donc, je ne suis jamais tout à fait persuadé que j'ai le livre dont j'ai envie de parler. Parce que, par exemple, là, il y a... J'ai pris un extrait de... Collection de sable,
ouais.
Eh ben, il est
là. Vous l'avez, ouais, en poche.
Il est quand même là,
ouais.
En poche, voilà.
Est-ce que je nous sers de l'eau avec cette carafe pieuvre géniale?
C'est un cadeau.
Elle est trop belle.
Elle est jolie, hein?
Ah ouais.
J'ai aussi une avec un requin. J'ai privilégié la pieuvre.
Non, mais la pieuvre, c'est génial. Voilà.
À cause de l'encre, on va dire.
Oh, à cause de l'encre, bravo.
Oh là là.
C'est vraiment incroyable.
Incroyable.
I'm taking on Hollywood. This time I'm coming to them. I'm planting my seed firm in the ground. I'm planting my seed firm in the ground for my future. Sorry for those other sons of bitches.
Moi je me mets là.
Le okay. Premier extrait que j'ai pris.
France Culture.
Alors attendez une seconde.
Oui, j'attends.
Le Book Club.
Dites-nous un truc sans importance.
Dans la bibliothèque d'Hervé Le Tellier.
Ouais, c'est pas facile,
voilà.
Hein.
Pas facile, mais je pense que tout ce que je dis est important, ouais.
Ouais. Ok.
Marie Richeux.
Alors, vous voulez nous dire pourquoi vous commencez par Les Misérables?
Ouais, j'ai choisi Les Misérables parce que, d'abord, c'est un livre assez fondateur pour moi. Et je l'ai lu pour des raisons assez bizarres. À un moment donné, dans Les Misérables apparaît, lors de cette discussion justement dont on va parler, le nom de Le Tellier.
Ah.
Voilà. Voilà.
Qui vous est familier?
Qui m'est familier et qui est associé, je crois, dans le texte, soit à crapule, soit à misérable. Enfin, c'est un homme abominable, Le Tellier. Et ça m'avait un peu étonné parce que ça allait un petit peu contre la vulgate familiale qui honorait d'une manière irraisonnée cet ancêtre qui effectivement est un véritable salaud. Bon, voilà. C'est l'homme des dragonnades, c'est l'homme qui, sous Louis XIV, pourchasse les juifs et les protestants, qui force aux conversions, etc. etc.
Pas admirable. Donc, pour un sou.
Non, pas très admirable, voilà. Et dans Les Misérables et les premiers chapitres, voilà, jusqu'au chapitre 15 ou 20, il y en a un qui est le 10e chapitre, qui s'appelle « L'évêque en présence d'une lumière inconnue ». Et ça, c'est intéressant parce que, au moment où on commence à lire le chapitre, on se demande mais de quelle lumière va-t-il être question, alors que depuis le début, on voit qu'il est en relation assez intime avec la bonté, la générosité, tout ce qui fait finalement à ses yeux la caractéristique de sa religion, qui est la religion catholique. C'est un bon évêque, c'est un évêque généreux, c'est lui qui va, lorsqu'on lui a volé les célèbres chandeliers en argent, qui va dire mais vous avez oublié l'argenterie. Qui va donc sauver Jean Valjean du bagne. Et cet évêque, qui est donc d'une très grande générosité, se retrouve à aller pour les dernières heures d'un conventionnel, donc un militant révolutionnaire en train de mourir, qui a maintenant peut-être 80 ans et qui se trouve en haut d'une colline un peu solitaire. Il a décidé d'aller le voir pour lui donner l'extrême onction. Donc il monte en haut de la colline et il va rencontrer pour la première fois un révolutionnaire. Voilà. Donc c'est la confrontation d'un homme de Dieu et d'un homme de la Révolution. Mmh. Et c'est un moment qui, pour moi, a été assez intéressant.
Est-ce que vous voulez bien nous dire, Hervé Le Tellier, à quel moment de votre vie vous le lisez ?
13 ans, 14 ans.
13, 14 ans. OK.
Voilà, je pense à peu près. Je n'ai pas le souvenir précis, mais ça doit être dans ces eaux-là.
Et à ce moment-là, très rapidement, mais la question de la confrontation entre une, on va dire, une idée religieuse du monde et une idée révolutionnaire politique du monde vous parle ?
Oui, ça me parle tout de suite parce que c'est tellement... chez Hugo, quelque chose de très juste et de très bien défini, que oui, ça me parle tout de suite. Et d'ailleurs, j'ai eu du mal à choisir ce passage parce qu'il y a tellement, dans cette longue discussion, de moments intéressants qu'on ne sait pas très bien comment s'y prendre pour prendre un extrait, le résumé, etc. Donc j'ai pris un extrait qui m'intéressait. Allez. Et qui porte sur Louis XVII et la mort de Louis XVII et la terreur.
Ok, on vous écoute.
La Révolution française, c'est le sacre de l'humanité. C'est la dernière phrase que dit le conventionnel G. L'évêque ne put s'empêcher de murmurer. Oui ? 93. Le conventionnel se dressa sur sa chaise, avec une sonalité presque lugubre, et autant qu'un mourant peut s'écrier, il s'écria. Ah ! Vous y voilà, 93. Je m'attendais à ce mot-là. Un nuage s'est formé pendant 1500 ans. Au bout de 15 siècles, il a crevé. Vous faites le procès au coup de tonnerre. L'évêque sentit, sans se l'avouer peut-être, que quelque chose en lui était atteint. Pourtant, il fit bonne contenance, il répondit. Louis XVII ? Le conventionnel étendit la main et saisit le bras de l'évêque. Louis XVII, voyons, sur qui pleurez-vous ? Est-ce sur l'enfant innocent ? Alors, soit, je pleure avec vous. Est-ce sur l'enfant royal ? Je demande à réfléchir. Pour moi, le frère de Cartouche, enfant innocent, pendu sous les aisselles, en place de grève, jusqu'à ce que mort s'en suive, pour le seul crime d'avoir été le frère de Cartouche, n'est pas moins douloureux que le petit-fils de Louis XV, enfant innocent martyrisé dans la tour du Temple, pour le seul crime d'avoir été le petit-fils de Louis XV. Monsieur, dit l'évêque, je n'aime pas ces rapprochements de noms. Cartouche, Louis XV, pour lequel des deux réclamez-vous ? Il y eut un moment de silence. L'évêque regrettait presque d'être venu, et pourtant, il se sentait vaguement et étrangement ébranlé. Le conventionnel reprit. « Ah, monsieur le prêtre, vous n'aimez pas les crudités du vrai. » Christ les aimait, lui. Il prenait une verge et il époussetait le temple. Son fouet, plein d'éclairs, était un rude diseur de vérité. Il ne distinguait pas entre les petits-enfants. Il ne se fut pas gêné de rapprocher le dauphin de Barabbas du dauphin d'Hérode. « Monsieur, l'innocence est sa couronne à elle-même. L'innocence n'a que faire d'être altesse. Elle est aussi auguste, dégonillée, que fleur de lysée. » « C'est vrai, dit l'évêque, à voix basse. « J'insiste, continua le conventionnel, G. Vous m'avez nommé Louis XVII. Entendons-nous. Pleurons-nous sur tous les innocents, sur tous les martyrs, sur tous les enfants, sur ceux d'en bas comme ceux d'en haut ? J'en suis. Mais alors, je vous l'ai dit, il faut remonter plus haut qu'à 93, et c'est avant Louis XVII qu'il faut commencer nos larmes. Je pleurerai sur les enfants des rois avec vous, pourvu que vous pleuriez avec moi sur les petits du peuple. Je pleure sur tous, dit l'évêque. « Également, s'écria G. Et si la balance doit pencher, que ce soit du côté du peuple, il y a plus longtemps qu'il souffre. »
J'ai vraiment aucune appétence pour que nous fassions usage de ce texte dans le présent immédiat, mais ça a quand même des résonances assez bouleversantes.
Ça parle de quelque chose de très précis.
Bah oui.
Ouais. Bah oui.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Et c'est pour ça que je l'ai choisi. Voilà.
C'est-à-dire que lire dans ce texte-là Les Misérables de Victor Hugo, la possibilité éthique, politique et humaine de pleurer sur tous les enfants innocents et martyrs est une...
Bah oui, c'est intéressant. Et la phrase finale qui est qu'il faut pleurer du côté du peuple parce qu'il y a plus longtemps qu'il souffre, est aussi intéressante. Mmh. Qu'il y a à la fois égalité des enfants, mais s'il faut choisir et que la balance doit effectivement pencher d'un côté... il faut pencher du côté du martyr, et donc de celui qui souffre le plus depuis le plus longtemps. Et je trouvais que c'était intéressant de relire ce texte, parce qu'il est d'une actualité dingue.
Quand le monde contemporain, sa violence, son énigme vous laisse sans voix. Est-ce que vous allez chercher des textes littéraires? Est-ce que ça vous aide concrètement dans la vie?
En fait, je les connais depuis longtemps, donc d'une certaine manière, ils viennent, ils ressurgissent. Et là, je vois très bien ce dont il est question, je vois très bien le rapport avec, avec Gaza, avec... voilà. Et je me dis, ben voilà, ça, ça m'intéresse, j'ai essayé d'en faire quelque chose. Mais s'il faut en faire quelque chose, il faudrait à la fois le rendre public, l'articuler à un discours, le rendre d'une certaine manière opératoire dans une situation politique. Et c'est ça la difficulté, c'est d'avoir le temps.
Et ça, ça marche ou pas, ça?
Moi, je pense que ça marche.
Ouais.
Moi, je pense que ça marche. Je pense que c'est une question à la fois de voix qui porte et donc de le confier à un bon lecteur, ce que je ne suis pas, de donner une situation dans laquelle on touche les bonnes personnes. Et je pense que oui, ça marche. Si on commence à désespérer de la puissance des mots, alors là, c'est dommage. J'ai fait récemment, il y a 3 ans, une pièce de théâtre consacrée à Churchill. Et à un moment donné, lorsque Churchill l'emporte à la Chambre des communes, après un long discours sur la nécessité de faire la guerre à Hitler... alors que toute la Chambre des communes lui est hostile, et que Chamberlain doit avouer sa défaite, et qu'on lui demande pourquoi est-ce qu'il a perdu, et Chamberlain répond, c'est parce que Churchill a mobilisé la langue anglaise. Je pense que, oui, la langue, elle a ce rôle-là aussi, elle porte à la fois la possibilité du mensonge, mais lorsqu'elle touche juste, qu'elle est littéraire au sens noble du terme, oui, elle peut avoir des effets sur les consciences. C'est un peu l'idée, si on... la quasi-totalité de l'argumentation est basée sur une stylistique et une rhétorique, je crois, la stylistique et la rhétorique. Je pense aussi que malheureusement, il existe un petit livre de Schopenhauer qui s'appelle « Comment avoir toujours raison » et qu'on en fait tout le temps usage maintenant, mais si on se base sur les faits et sur des réflexions qui sont un mélange d'historicité et de connaissances littéraires, oui, ça peut être intéressant. C'est Freud qui disait qu'on apprenait plus des bons livres que de la vie, je crois que ça reste vrai.
Ah ouais, oh, ça se discute. Mais bon, on n'a pas le temps.
On n'a pas le temps. Mais c'est pas faux. C'est un peu l'idée qu'on ne peut pas faire toutes les erreurs, il faut apprendre de celles des autres. Voilà.
Ah, dans ce sens-là.
Dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Non, la vie est indispensable pour comprendre des choses.
Voilà, on est d'accord.
Mais
simultanément, c'est un bon outil quand même de vivre.
Mais c'est un bon outil de vivre, mais simultanément, c'est bien de lire Madame Bovary pour comprendre ce que c'est que le bovarisme avant de l'avoir à le vivre soi-même.
Allez,
par exemple.
Vendu. Votre deuxième choix, donc on est, si j'ai bien compris, Hervé Le Tellier, toujours dans des romans de formation.
Oui.
Vous êtes allé chercher Mark Twain avec Les Aventures de Tom Sawyer.
Oui.
Et la traduction est Bernard...
De Bernard Höffner. Ouais. C'est de Bernard Höffner, c'est l'édition Tristram qui republie actuellement tout Mark Twain. Et j'ai choisi un petit passage très court, hein, qui est un passage consacré à un Indien qui est considéré, c'est un des problèmes aujourd'hui de Mark Twain aujourd'hui, c'est qu'il a un héros indien qui est négatif, et donc il est un peu mal aimé du côté des Américains d'origine. Mais en dehors de ce personnage, il y a quelque chose chez Mark Twain que j'avais absolument adoré, et j'ai retrouvé pour l'émission, qui est un passage dans Tom Sawyer qui parle d'une stalagmite.
Allez, on vous écoute.
Donc on est dans une prison dans laquelle a été enfermé Injun Joe, qui est l'Indien donc, et dans laquelle il va mourir de faim. Il va mourir de faim de manière atroce, il en est même à manger des chauves-souris dont il ne reste que les griffes. C'est dire à quel point c'est une agonie terrible. Le pauvre malheureux était mort de faim. Pas très loin, une stalagmite avait lentement poussé sur le sol rocheux depuis des siècles, à partir des gouttes d'eau qui tombaient d'une stalactite au-dessus. Le captif avait brisé la stalagmite et sur cette souche, il avait posé une pierre qu'il avait creusée afin de recueillir la goutte précieuse qui tombait toutes les 3 minutes avec la régularité monotone d'un mécanisme d'horloge. Une cuillère à dessert toutes les 24 heures. Cette goutte tombait déjà quand les pyramides furent construites, au moment de la chute de Troie, quand les fondations de Rome furent creusées, quand le Christ fut crucifié, quand le conquérant établit l'Empire britannique, quand Christophe Colomb hissa les voiles, quand le massacre de Lexington était encore une nouvelle fraîche en 1575. Elle tombe encore aujourd'hui. Elle tombera encore quand toutes ces choses auront sombré dans la crépuscule de l'histoire, puis dans le soir de la tradition pour être avalées dans la nuit de l'oubli. Est-ce que tout a un but et un objectif? Cette goutte est-elle tombée patiemment pendant 5000 ans afin d'être là pour répondre aux besoins de ce minuscule insecte humain? Est-elle pourvue d'une autre mission? tout aussi importante qu'il lui faudra accomplir dans 10 000 ans, peu importe. Des années et des années se sont écoulées depuis que l'infortuné sans mêlée a évidé cette pierre pour y recueillir les gouttes précieuses. Mais aujourd'hui encore, c'est à cette pierre pathétique et c'est à cette eau qui tombe lentement que le touriste s'intéresse le plus lorsqu'il vient visiter les beautés de la grotte de MacDougall. La Tast d'Injunjo est la première des merveilles de la grotte. Même le palais d'Aladin ne peut rivaliser avec elle.
Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans cet extrait ?
Quand on est enfant et qu'on lit Tom Sawyer, d'un seul coup, il y a une sorte de raccourci de l'humanité à travers une... ce qui est dit là, je ne vais pas le paraphraser, mais quand je l'ai lu, la première fois, je me souviens d'avoir été fasciné par ce temps qui passait à travers juste la goutte qui tombe. Formidable. Quoi.
Ça rejoint aussi ce que vous disiez tout à l'heure dans votre amour pour Italo Calvino, à savoir la capacité à partir d'un élément très concret, quotidien, de monter vers de très grandes questions, à savoir est-ce que cette goutte a une mission ? Pourquoi est-ce qu'on est des petites choses, l'insecte humain ? C'est comme si on avait l'impression que c'est des petites situations.
Mais ça annonce Calvino. C'est-à-dire
expérience de pensée, quoi.
C'est une expérience de pensée très classique qui annonce Calvino. On pourrait imaginer Calvino réfléchir comme ça dans Palomar, par exemple, en regardant tomber une goutte. Dans Palomar, il observe une vague indéfiniment et il se pose la question, est-ce qu'il serait capable de reconnaître cette vague parmi d'autres ? Est-ce que cette vague a une spécificité, une personnalité, une unicité ?
C'est un beau, ce roman.
Palomar, c'est magnifique, oui, c'est très très beau. Donc il s'interroge sur des choses qui sont de l'ordre de ce quotidien, quoi. Et il y a déjà dans ce texte-là quelque chose que j'ai retrouvé, moi, plus tard, chez Calvino. Cette réflexion toute simple, à partir d'une petite prison dans laquelle est enfermé le pauvre Injunjo, dans laquelle il va mourir de faim, et dans laquelle tout va tourner autour de la goutte qui a peut-être un but qu'on ne connaît pas encore, mais qui va s'affirmer au cours des millénaires.
Et la tasse qui est la plus grande des
merveilles. Et la tasse qui est la plus grande des merveilles, voilà.
Est-ce que ça annonce aussi Calvino dans vos choix ? C'est le troisième choix vers lequel on va ou pas encore ?
C'est le troisième choix vers lequel on peut aller.
Si vous avez prévu d'autres choses ?
Non, j'avais mis un autre texte avant, mais je vais rester sur Calvino. Parce que c'est vrai que le texte de Calvino va dans cette direction. Et j'ai pris donc Collection de sable. Et dans Collection de sable... J'ai pris Collection de sable, parce que Collection de sable est un recueil de petits textes consacrés à chaque fois à des situations, déambulations, observations de Calvino, parfois des articles publiés dans les journaux. Et celui-là, c'est lorsqu'il a visité toute une série de petits musées, dont un musée qui faisait des collections de collections. Et donc, dedans, il y a une collection de sable, mais il y a aussi une collection de masques à gaz, il y a aussi des collections très bizarres de modèles réduits. Mais il s'est concentré au début sur collection de sable.
Et qui sont confiés à la conservation par des gens lambda.
C'est-à-dire qu'il y a une exposition à un moment donné qui expose des collections, des individus privés prêtent leur collection. Okay. Et cette dame a prêté sa collection de sable. Là, on arrive à la fin de cette réflexion sur la collection de sable, qui est très longue, très belle. Et on est dans les trois derniers paragraphes.
Et c'est la traduction de Manganaro.
La voici qui revient de voyage. Elle range de nouveaux flacons en les alignant sur les autres et s'aperçoit tout à coup que, sans l'indigo de la mer, le scintillement de cette plage de coquillages broyés s'est perdu. Que rien n'est resté de la chaleur humide de l'oued dans le sable figé. Que loin du Mexique, le sable mélangé à la lave du volcan Paricutin n'est rien qu'une poussière noire semblable à celle qui tombe du tuyau d'une cheminée ramonée. Elle essaye de ranimer dans sa mémoire les sensations de cette plage, cette odeur de forêt, cette chaleur ardente, mais c'est comme secouer ce peu de sable au fond de la petite carafe étiquetée. Il ne reste alors qu'à céder, qu'à se détacher de la vitrine, de ce cimetière de paysages réduit à un désert, de déserts sur lesquels le vent ne souffle plus. Et pourtant, celle qui a eu la constance de poursuivre des années durant cette collection savait ce qu'elle faisait, savait où elle voulait arriver. Justement, peut-être à éloigner d'elle le vacarme des sensations déformantes et agressives, le vent confus du vécu, et avoir pour elle enfin la substance sableuse de toutes les choses, toucher la structure de silice de l'existence. C'est pourquoi elle ne détourne pas les yeux de ces sables, entre du regard dans une de ces fioles, il creuse sa niche, s'identifie avec elle extrait les myriades de renseignements entassés dans un monticule de sable. Chaque gris, une fois décomposé en grains clairs et sombres, brillants et opaques, en forme de sphère, de polyèdre ou plat, n'est plus perçu comme gris. On commence alors seulement à nous faire comprendre la signification du gris. En déchiffrant ainsi le journal de la mélancolique ou heureuse collectionneuse de sable, j'en suis arrivé à m'interroger sur ce qui est écrit dans ce sable de mots écrits que j'ai alignés au cours de ma vie. Ce sable qui m'apparaît à présent si éloigné des plages et des déserts du vivre. Peut-être est-ce en fixant le sable en tant que sable, les mots en tant que mots, que nous pourrons être prêts de comprendre comment et en quelle mesure le monde érodé et broyé peut encore trouver là son fondement et son modèle. Pas mal.
Ouais, ça m'a beaucoup ému.
Chez Calvino, il y a cette capacité à prendre une chose qui semble a priori anodine et à la décortiquer de toutes les manières possibles pour arriver à quelque chose qui est extrêmement profond, en fait.
Et avec aussi des mots comme des plages et des déserts du vivre.
Oui.
Bon, c'est une traduction, mais...
Non, mais l'avantage de traduire l'italien, c'est qu'on est très proche du français, quand même. On est dans deux langues romanes, donc l'idée de perdre quelque chose à la traduction est plutôt
mince.
Ouais. Je pense que si on allait vers du chinois ou de l'arabe, on perdrait quelque chose parce que la structure est différente. Mais là, dans l'écriture de Calvino, on va vers le français et sans doute vers l'espagnol de manière assez simple.
Mais toucher la structure de silice de l'existence...
Oui, c'est très fort. Ouais. Et puis la compréhension qu'effectivement, les mots sont des mots comme le sable et du sable, c'est aussi extrêmement malin et extrêmement intelligent. Et tout le livre est comme ça, c'est ça qui est formidable.
Mais c'est pas que malin et intelligent, c'est-à-dire qu'on voit le côté malin et intelligent, la bonne trouvaille, mais il y a aussi quelque chose qui te bouleverse à la fin, quoi. Enfin,
oui,
moi, je sais pas, j'ai été cueillie.
Oui, moi aussi. Je suis très ému parce qu'il y a quelque chose qui, dans ce texte, parle fondamentalement aussi de la vanité, c'est-à-dire du côté vain des choses. Mm. Parce qu'il n'y a rien de plus vain que le sable. En plus, le sable est par définition ce qui définit le temps, c'est les sabliers, c'est autre chose. Il y a derrière le sable autre chose que le sable. Le sable est pour nous une symbolique incroyable. C'est à la fois l'infini, puisqu'il y a, comme chacun sait... il y a plus de galaxies qu'il n'y a de grains de sable sur la Terre, donc ça nous ramène toujours à cette idée de l'infini.
Ça faut savoir, mais il faut l'oublier, parce que ça rend complètement fou cette phrase, mais bon.
Mais c'est pourtant vrai.
C'est pourtant vrai.
Voilà. La deuxième chose que ça nous amène immédiatement, c'est l'idée de l'écoulement.
Et donc
du temps. Et donc le choix du sable nous ramène de manière inconsciente, mais de manière systématique, à cette idée de la finitude simultanément et du temps qui s'écoule inexorablement. Et puis, ce que dit aussi le texte, c'est la diversité infinie de chacun des grains de sable. Mmh. Si on commençait à s'intéresser à chaque fois au grain lui-même, on verrait qu'aucun ne ressemble à aucun autre.
Et que le gris, ou l'apparent gris,
voilà.
Est en fait...
Qu'est-ce que c'est que comprendre le gris? Et bon, voilà, c'est un texte qui, moi, me touche, et qui, en plus, parle de l'écriture, parce que effectivement, c'est un rapport aux mots, à leur signification, le monde érodé et broyé, comment essayer en permanence de retrouver une énergie dans les mots qui permettent de leur redonner du sens.
Ouais.
Et c'est très présent chez Calvino, en utilisant des mots extrêmement simples aussi, parce que c'est sa puissance aussi d'écriture qui fait qu'il n'a pas besoin d'utiliser d'autres vocables que ceux du langage commun, quoi. Et néanmoins, avec ces mots-là, il arrive à créer une grande intelligence de la vie.
Et... C'est assez beau aussi l'idée qu'il puisse faire l'hypothèse que c'est une collectionneuse pas nécessairement mélancolique, mais peut-être heureuse.
Mais peut-être heureuse.
C'est un joli sourire.
Oui, parce que dans la collection, les deux éléments coexistent. D'abord, l'idée de la collection, c'est qu'il y a de l'exhaustivité. On voudrait aller vers l'exhaustivité. Et puis, au bout d'un moment, quand on continue sa collection, on se rend compte que cet objectif est irréalisable, inatteignable. Et donc, il y a une forme de résignation joyeuse dans laquelle on se dit, bon, ben, ce n'est pas le monde entier, mais c'est la manière dont moi, je peux, d'une certaine manière, m'approprier le monde, puisque c'est l'appropriation, la collection. C'est l'appropriation de l'infini. Et la collection de sable, c'est une appropriation qui ne peut pas, à un quelconque instant, dans l'esprit de quiconque, être achevé. Ouais. Donc c'est l'acceptation de l'inachevé. Voilà, je trouve ça très beau.
Quatrième choix, Hervé Le Tellier, on va vers quoi ?
J'ai pris Borges.
Ah.
J'ai pris Borges parce que c'est un auteur qui a énormément compté pour moi et qui est, à mon avis, jamais lu avec tout le plaisir que ça peut donner parfois, parce que tellement l'imaginaire de Borges est riche, tellement parfois il y a de l'humour, et parfois tellement il y a une recherche de faire passer une idée qui est très supérieure parfois à ce qu'il envisageait. J'ai un traducteur grec qui avait une fois fait visiter, qui a traduit Borges, et qui une fois a fait visiter Athènes à Borges, qui était déjà aveugle. Il avait des problèmes de traduction de Borges, de ses textes. Et un jour, il lui pose une question, j'ai oublié quelle était la question, mais en gros, est-ce que ce mot signifie ceci ? Et Borges lui a répondu, le mot signifie ce que vous pensez qu'il signifie. Arrêtez de me poser des questions sur ce que j'ai écrit. Ce n'est pas si important. Et au fond, votre traduction sera bonne si vous décidez de l'interpréter de telle ou telle manière. J'ai trouvé que c'était un rapport au texte qui était intéressant. Et il y a de l'humour aussi chez Borges. Et le texte que j'ai choisi est un extrait de cette collection de textes qui finit par donner l'Aleph. Je pouvais le prendre en fiction, mais l'Aleph est très aussi intéressant. Et dans l'Aleph, j'ai choisi l'écriture de Dieu, qui est l'histoire d'un prêtre qui est enfermé par un conquistador dans une prison. Alors, je vais vous lire le début, puis je vais vous raconter la fin de l'histoire.
Ça fait quand même pas mal de prisons et d'hommes de Dieu dans votre sélection.
Bah ouais, j'ai pensé en faisant la sélection, je me suis dit, tiens, encore une prison.
Encore un homme de Dieu.
Encore un homme de Dieu. Mais c'est pas grave, je trouve que c'est très cohérent.
C'est paru en 77, et là vous allez lire la traduction, j'imagine, de Caillois et Durand.
Exactement. La prison est profonde. Elle est en pierre. Sa forme est celle d'une demi-sphère presque parfaite. Le sol, qui est aussi en pierre, l'arrête un peu avant le plus grand cercle, ce qui accentue de quelque manière les sentiments d'oppression et d'espace. Un mur la coupe en son milieu. Il est très haut, mais n'atteint pas la partie supérieure de la coupole. D'un côté, il y a moi, Sinakan, mage de la pyramide de Kaholom, qui fut incendiée par Pedro de Alvarado. De l'autre, il y a un jaguar, qui mesure à pas égaux et invisibles le temps et l'espace de sa cellule. Au ras du sol, une large fenêtre au milieu de barreaux s'ouvre dans le mur central. À l'ombre sans heure, on ouvre une trappe dans le haut et un geôlier, que les années ont petit à petit effacé, manœuvre une poulie de fer qui nous descend à l'extrémité d'un câble des cruches d'eau et des morceaux de viande. La lumière pénètre alors dans l'oubliette. C'est le moment où je peux voir le jaguar. Je ne sais plus le nombre des années que j'ai passées dans la ténèbre. Moi qui autrefois fus jeune et qui pouvais marcher dans cette prison, je ne fais plus autre chose qu'attendre dans l'attitude de ma mort, la fin que les dieux me destinent. Avec le profond couteau de silex, j'ai ouvert la poitrine des victimes. Maintenant, je ne pourrais pas, sans l'aide de la magie, me lever de la poussière. Et ensuite, on va découvrir cet homme qui est donc un prêtre d'une religion oubliée, pense que son Dieu, et c'est sa manière d'échapper définitivement à la prison s'il y arrive un jour, a écrit dans le dessin qui constitue la fourrure du jaguar les mots qui lui permettront de s'échapper de cette prison. Et il passe sa vie à chercher dans la fourrure du jaguar l'écriture de son Dieu. Et au moment où il la découvre, parce qu'il y passe des années, et qu'il ne peut voir que le jaguar qu'une fois par jour passé, il essaie de retenir comment s'organise
sa fourrure.
Au moment même où il arrive à lire l'écriture de Dieu dans son jaguar, il décide que ça n'est pas non plus important.
Comme Borges.
Comme Borges, voilà. Ça n'est pas non plus important et que il n'a plus besoin de lire l'écriture de Dieu, que cette écriture cabalistique est devenue inutile par rapport au trajet que lui a fait dans son propre, dans sa psyché. Il n'a plus besoin de son propre Dieu pour s'échapper. C'est très, très énigmatique et c'est très intéressant.
Est-ce que vous avez un rapport de lecteur avec les textes sacrés ?
J'ai toujours adoré lire la Bible quand j'étais enfant. Mm-hmm. Il y a un texte de la Bible plus que les autres, qui est l'Ecclésiaste. Il m'a toujours fasciné.
Donc vous dites que souvent, ou presque quasi.
Mais quasiment tout le temps.
Quasiment tout le temps, vous le citez.
Je cite. Et je me suis rendu compte, j'ai fait la préface de Ray Bradbury, un livre qui s'appelle Fahrenheit 451, et j'avais oublié que c'est la lecture de ce livre qui m'a fait lire l'Ecclésiaste. Et c'est en relisant le livre pour faire la préface que je me suis rendu compte que...
C'était ça le chemin vers l'Ecclésiaste.
Le personnage de Montag, qui est le pompier qui met le feu à tous les livres et qui finit à la fin du roman par vouloir absolument sauver les livres et au moins un livre, apprend l'Ecclésiaste. Et c'est comme ça, je pense qu'à 12 ou 13 ans, en lisant ce bouquin, j'ai eu envie de lire l'Ecclésiaste. Et quand j'ai lu l'Ecclésiaste, j'ai été marqué par, effectivement, la puissance de ce texte, qui est un texte, moi, Coëlède, fils de David, etc., et qui nous donne, en fait, dans le langage courant, un nombre d'expressions, rien de nouveau sous le soleil, etc., qui viennent de ce texte, qui est un des textes poétiques les plus anciens qui soient, et qui est un texte dans lequel la référence à Dieu est très faible.
Et dans lequel peu d'importance.
Non, mais c'est vrai, c'est de peu d'importance, et dans lequel la principale question, c'est celle de la succession des générations les unes après les autres, et du fait que rien ne change, que tout se répète, voilà, que rien de nouveau sous le soleil, et que l'important est avant tout de chercher en soi la sagesse, et pas forcément d'aller chercher dans du rituel, ce qui est étrange dans la Bible, puisque c'est quand même pas l'idée générale, mais dans la Bible, il y a cette idée que le Coëlète, qui est central, l'Ecclésiaste, joue ce rôle de doute, la question de la grandeur du doute.
On va vers votre dernier choix.
Ah, j'ai fait un choix très contemporain, et j'ai choisi un livre d'un ami qui s'appelle « La grande aventure » de Victor Pouchet. Et je l'ai choisi parce que j'ai vu ses poèmes s'écrire.
C'est-à-dire ?
Ça n'arrive pas à tout le monde de voir des poèmes s'écrire au cours de sa vie. Donc, on était confinés ensemble pendant ce qu'on peut appeler le confinement. Et Victor écrivait un poème par jour. Et je trouve que ce qui est difficile dans la poésie, c'est qu'elle est prise entre deux tiraillements. Un tiraillement vers le grandiloquent, un tiraillement vers le banal, un tiraillement vers le grandiose et un tiraillement vers le ridicule. Et Victor réussit à faire quelque chose que je trouve rare, qui est d'être sur la ligne de crête, de ne jamais tomber d'un côté ni de l'autre. Et d'arriver à dire des choses extrêmement simples, tout en faisant passer une émotion que je trouve extrêmement forte, dans une poésie qui est une poésie du quotidien, qui parle des choses, comme on va le voir, qui sont les choses qu'on croise tous les jours. Et néanmoins, il arrive à en tirer quelque chose qui dit son usage de la langue et la manière dont on peut tous à la fois faire de la poésie. En fait, c'est pas si simple. Donc, c'est extrait d'un livre qui s'appelle La Grande Aventure et qui est un roman-poème. Donc, chacun des poèmes, en fait, s'enchaîne sur un autre et j'en ai choisi trois de suite. Je ne sais pas bien pourquoi je dis souvent dans ces poèmes ce que je bois, ce que je mange. Car après tout, enfin tu vois, ce n'est pas le plus important de savoir que celui qu'on lit mange des chips et boit du vin. Ce serait mieux de connaître ce que je pense de l'existence, de l'amour et des métaphores sur la grandeur de l'âme humaine. Mais ce sont des mots pour lesquels il faudrait un permis spécial que je ne compte pas passer. C'est l'heure de goûter. Je te laisse. Il reste du gâteau d'hier. Deuxième poème. Tu sais, il y aura peut-être des jours sans poème. Il faut se préparer à tout. Pour le moment, ça va encore. Mais le jour venu, on ira se promener ou faire un truc, je ne sais pas. Troisième poème. Je me suis rendu compte que trop souvent, je dis le mot « truc » dans mes poèmes. C'est pas très glorieux. Le prochain poème sera plus précis. Il y aura des mots minutieux, comme le mot « minutieux ». Et des paysages à l'encre de Chine, avec des détails. Enfin, si ça marche, on n'est jamais sûr.
Il a écrit tous les jours.
Tous les jours. Mm. Et le premier des poèmes qu'on a écrit, c'était, je m'en souviens, parce qu'on avait acheté une imprimante laser avec le Wi-Fi. Et donc, on voulait la tester. Et il a testé le premier jour avec un poème qu'il a envoyé. Lapin, lapin, les lapins sont des lapins.
Vous avez ri ?
Nous avons ri, nous avons trouvé que c'était très bien, qu'il fallait qu'il continue. Et tous les jours, sur nos recommandations, voire nos injonctions, il a écrit des poèmes.
Et il vous les lisait ?
Et il nous les lisait tous les jours, voilà. Et à la fin, pour son anniversaire, on a fait un petit recueil avec le début de ce qui est devenu ultérieurement La Grande Aventure. Et j'ai fait une petite préface pour lui, qui est restée, expliquer, c'est assez drôle, parce que je l'ai écrite en quelques heures, même une heure, je crois. Et c'est resté la préface du livre chez Grasset, La Grande Aventure. On l'a reprise telle quelle, parce que c'était sympa. Et ça nous rappelait ce moment qu'on avait passé ensemble. Donc ce sont des poèmes d'amour, ce sont des poèmes aussi du quotidien. Et comme vous le voyez, il y a ce que je disais, c'est-à-dire c'est sur la crête. C'est sur la crête et ça ne tombe jamais ni dans la vallée de la sottise, ni dans la vallée du grandiloquent.
Merci beaucoup Hervé Le Tellier d'avoir ouvert votre bibliothèque pour
Merci,
le book club.
Merci.
C'était de le refaire avec un arrêt.
Ça s'est transformé, mon nom est devenu autre chose, mais j'ai bien aimé, c'était presque comme un anagramme.
Mais ça ressemblait aussi à un nom japonais.
Oui, voilà.
Hariri-shu. C'est quoi ce riri, Mariri?
Ouais, je suis d'accord, c'est vrai.
No, need not, need no not, need fall, below.
Accueilli chez
Merci vous. À vous, Merci. À très bientôt.
Pour retrouver les textes choisis et lus par Hervé Le Tellier, vous pouvez vous rendre sur la page du bookclubfranceculture.fr. C'est aussi sur cette page que vous retrouverez tous nos portraits de bibliothèque. J'adresse un grand merci à toute l'équipe du Book Club qui m'aide à préparer ces émissions. L'épisode d'aujourd'hui est réalisé par Anna Holweck. À la prise de son, c'est Clément Vuillet et au mixage, Grégory Wallon.